Chapitre 6. Ce qui donnait à Boisrobert cette influence sur le cardinal, c'était le privilège qu'il avait de faire rire, avec ses contes, un homme qui riait peu. Racan et Voiture étaient surtout les héros des contes de Boisrobert. Disons d'abord ce qu'était Racan, puis nous raconterons à nos lecteurs quelques-uns des contes que Boisrobert racontait au cardinal. Racan était de bonne maison. Il s'appelait Honorat de Rueil, marquis de Racan. Il était né en 1589, 4 ans après la mort de Ronsard, 34 ans après la naissance de Malherbe. Son père était chevalier de l'ordre et maréchal de camp. Il avait acheté un moulin qui était un fief le jour même où naquit l'auteur des Bergeries. Il voulut que ce fils portât le nom du moulin qu'il venait d'acheter. Le moulin s'appelait Racan. Racan commandait les gendarmes du maréchal des Fiats. Cela le faisait vivre, car il ne pouvait rien tirer de son père, dont les affaires étaient très embrouillées, et qui lui laissa une succession dont il lui fut impossible de tirer parti. Plus tard, il fut riche. Il avait été page de notre vieil ami Bellegarde, et cela n'avait pas eu lieu sans quelques taches à ses mœurs. Mais Madame de Bellegarde, ce qui dut le réhabiliter dans l'esprit de ses accusateurs, lui laissa 20 000 livres de rente sur 40 qu'elle avait. Racan avait déjà 30 à 35 ans lorsque cette succession lui arriva. Jusque-là, il avait souvent été bien à l'étroit. Boisrobert le trouva une fois à Tours, où il était occupé à faire des vers pour un petit commis qui lui avait promis de les lui payer 200 livres. Racan ne pouvait s'en tirer. Boisrobert lui prêta les 200 livres, et Racan n'eut pas besoin de faire les vers. C'était, comme on voit, une véritable providence que ce brave Boisrobert. Un jour, Conrart trouva Racan dans un cabaret borgne et le voulut faire déloger. « Oh non, dit-il, non pas, je suis bien iti, je digne pour le temps, et le soir, on me trempe la soupe pour lien. » Afin de comprendre ce baragouin, il faut savoir que Racan ne pouvait prononcer ni les C ni les R. Il prononçait les C comme les T, et les R comme les L. Oh, dit-il, non pas, je suis bien ici, je digne pourtant, et le soir, on me trempe la soupe pour rien. Il s'attacha à Malherbe, dont il devint l'élève, et l'écolier profita si bien des leçons qu'il donna de la jalousie au maître. Malherbe lui enviait particulièrement cette stance d'une pièce intitulée « Consolation adressée à M. de Bellegarde sur la mort de M. de Termes, son frère. » Il voit ce que l'Olympe a de plus merveilleux. Il voit dessous ses pieds ces flambeaux orgueilleux qui tournent à leur gré la fortune et sa roue. Il voit comme fourmis marcher nos légions dans ce petit amas de poussière et de boue dont notre vanité fait tant de régions. Au reste, Racan était de race versifiante, sinon poétique. Son père et sa mère faisaient des vers. Il est vrai qu'il n'était pas bon. Les vers. Lui, tout enfant, et au page de M. de Bellegarde, il en faisait déjà. La pièce intitulée « Stance contre un vieillard jaloux » et qui commence par ces mots « Vieux corps tout épuisé et de sang et de moelle » et de ce temps-là. C'étaient les comédies de Hardy qu'il voyait représenter à l'hôtel de Bourgogne, où il avait ses entrées comme page de M. de Bellegarde, qui lui montait la tête à la poésie, et cela, quoique, comme Conrart, il ne sût pas le latin. L'ode d'Horace, Beatus ille, qu'au reste on ne retrouve pas dans ses œuvres, fut mise en vers par lui sur une traduction de son parent, le chevalier de Rueil. Si le génie a en lui-même sa puissance qui triomphe de tout, jamais cette puissance ne fut mieux caractérisée que dans Racan, car, hors la poésie, il semblait n'avoir pas le sens commun. Il avait la mine d'un fermier normand. Il bégayait et n'avait jamais pu prononcer son nom. Bonhomme, du reste, sans fiel, sans méchanceté, sans finesse. Mais distrait que c'était merveille. Voici quelques-unes de ses distractions. Un jour qu'il était couché avec Bussy Lamet, son cousin, en train de lire un petit livre déjà devenu fort rare de son temps, il se sentit pris, ni plus ni moins que le malade imaginaire, d'un besoin tout à fait réel. Il s'en va au cabinet, comme dit Molière, tout en lisant « car la lecture l'intéressait fort, continue de lire en faisant ce qu'il avait à faire, puis, la chose terminée complètement, jette son livre par le trou et revient avec un papier devant son nez, croyant revenir avec son livre. « Que diable avez-vous là ?» lui demanda Bussy Lamé. « Pardieu, répond Racan, c'est la France moulante, un livre bien intéressant et bien curieux. » Pour toute réponse, Bussy Lamé lui pousse le bras et lui met le nez en contact direct avec le papier. Ce fut alors seulement que Racan s'aperçut de sa distraction. Une fois, en pensant à autre chose, il mangea tant de pois qu'il en faillit mourir d'indigestion. Aussi ne cessait-il de répéter, tout en prenant son émétique, « Voyez-vous ces tolins de laté, qui me voient manger des pois, à entlever, et qui ne m'avertissent point ?» Une autre fois, il allait à la campagne voir un de ses amis. Il était seul et monté sur un grand cheval. Une nécessité pareille à celle qui avait entraîné la perte de la France mourante le força de descendre de cheval. Il fallut remonter. Le cheval était haut sur jambes et pas de montoir. Racan prit le cheval par la bride et continua son chemin à pied. Arrivé à la porte de son ami, il trouve enfin un montoir. « Ah » dit-il, « c'est bien heureux !» Et remontant sur son cheval, il tourne bride et s'en revient chez lui sans avoir seulement demandé à son ami comment il se portait. Un jour qu'il avait couché dans la même chambre que Malherbe et Ivrande, Ivrande était un gentilhomme breton, disciple de Malherbe et page de la grande écurie. Un jour, disons-nous, qu'il avait couché dans la même chambre que Malherbe et Ivrande, il se lève le premier, prend les chausses d'Ivrande pour son caleçon, met les siennes par-dessus et sort en disant où il allait, selon son habitude, de peur qu'il n'oubliât d'y aller, et dans ce cas, ses amis le lui rappelaient. 5 minutes après, Ivrande veut s'habiller à son tour. Plus de chausses. « Ah » s'écrie-t-il, « c'est ce coquin de Racan qui les aura prises !» Et prenant à son tour, et malgré ses cris, celle de Malherbe, il se met à courir sans pourpoint après Racan, qu'il rejoint au coin de la place royale. « Ah, vous voilà donc !» dit-il tout essoufflé et lui posant la main sur l'épaule. « Oui, me voilà !» répond Racan. « T'avez-vous à me dire ?»« J'ai à vous dire que vous avez le derrière plus gros aujourd'hui qu'hier. »« Il est possible que j'ai attrapé une fluxion, » répond Racan. « Il y a des coulants d'air dans cette chambre. »« Et c'est pour cela que vous avez mis mes chausses sous les vôtres ?» Racan se regarde et se trouvant en effet plus gros que de coutume. « C'est possible, dit-il, mais si cela est, je vais vous les rendre à l'instant. Je ne suis pas un voleur. » Et Racan s'assure de la chose. « Ah, c'est ma foi vlée, dit-il, c'est ma foi vlée. » Et sans s'inquiéter où il est, s'appuyant contre une borne, il défait ses chausses d'abord, puis celles d'Ivrande, les lui rend, repasse les siennes et continue son chemin, fendant d'un front étonné les flots de la foule qui se demandait quels pouvaient être ces deux hommes, l'un en bras de chemise et l'autre pendant un temps en chemise tout à fait, qui faisaient leur toilette au coin de la rue. C'était Ivrande et Racan. Une après-dînée qu'il pleuvait à torrent, Racan arrive chez M. de Bellegarde où il logeait, trempé comme un potage. Et pensant rentrer dans sa chambre, il entra dans celle de Mme de Bellegarde. Madame de Bellegarde était à un coin du feu et Madame de Lorge à l'autre. Le laquais de Racan le suivait, et voyant que son maître se trompait, il en l'élan avertir quand les deux dames lui firent signe de se taire, prévoyant quelque nouvelle distraction de ce maître rêveur. En effet, Racan n'y manqua pas. Ne remarquant ni l'une ni l'autre de ces dames, il se fait déboter, ôte ses chausses et dit à son laquais « Va nettoyer mes bottes. Il y a bon feu, je ferai sécher ici mes chausses et mes bas. » Le laquais sort. Racan s'approche du feu, met proprement ses bas sur la tête de Madame de Bellegarde et ses chausses sur celles de Madame de Lorge, approche un fauteuil, s'assied et sèche sa chemise. « Eh bien, Racan, lui dit Madame de Bellegarde, que faites-vous ? » Racan tressaille, regarde à droite et à gauche, voit Madame de Lorge coiffée de ses chausses et Madame de Bellegarde coiffée de ses bas. Oh, mesdames, s'écrie-t-il, que d'excuses! Je vous avais prises pour deux chenets. Un jour, il devait aller faire une chasse au perdreau avec un prieur de ses amis. Les deux chasseurs devaient partir après vêpres. Racan arrive une heure trop tôt. « Mais, mon cher, lui dit le prieur, vous oubliez qu'il faut que je dise vêpres. »« Eh bien, dites-les, je vous servirai. » Le prêtre accepte, croyant que Racan va quitter sa carnassière et son fusil. Pas du tout. Il le retrouve tout harnaché, dans le cœur, ayant de plus son chien en laisse. Et Racan, dans cet attirail, chanta le Magnificat tout au long. À propos de chasse, Racan avait trouvé un chasseur tout aussi distrait que lui. C'était M. de Guise. Un jour qu'ils étaient à Tours ensemble, M. de Guise lui dit « Allons à la chasse, Racan !» Ils y allèrent, et de tout le jour, ils ne se quittèrent point. Le lendemain, M. de Guise rencontre son compagnon de la veille et lui dit « Vous avez bien fait de ne pas venir hier à la chasse avec moi, Racan. Nos chiens n'ont rien fait qui vaille. » Racan, si distrait qu'il fût, s'aperçut de la distraction de M. de Guise et, comme le lièvre de la fontaine, heureux d'avoir trouvé plus poltron que lui, fut enchanté d'avoir trouvé un distrait qui lui dama le pion. Aussi, comme M. de Guise allait à la chasse, lui n'y alla-t-il pas. Seulement, tout crotté, il attendit au retour et se plaça près de lui au moment où il rentrait. « Ah, parbleu !» dit M. de Guise. « Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, Racan. Aujourd'hui, vous avez bien fait de venir avec nous, car nous avons eu grand plaisir, n'est-ce pas ?»« Oui, monseigneur, » répondit Racan, qui se plaisait à raconter l'anecdote. Plusieurs fois arrêté par un ami qui se tenait sur son chemin et l'arrêtait afin de causer avec lui, Racan lui fit l'aumône, le prenant pour un gueux. Tout un jour il boita, parce qu'il s'était promené avec un gentilhomme boiteux. Un matin, étant à jeun et se sentant pris du besoin d'avaler quelque chose, il entre chez un de ses amis. « C'est toi, Racan ?»« Eh, ma foi, oui !»« Quel hasard de te voir !» « Je passais, je me suis senti faible. Donne-moi cette chose à boire. »« Tiens, dit l'ami qui était encore couché, il y a dans cette armoire un verre d'hypocras que je me suis versé hier et un verre de médecine que je vais prendre ce matin. Tâche de ne point te tromper. » Racan va à l'armoire et, comme son ami s'était fait le plus possible aromatiser sa médecine afin qu'elle fût moins désagréable à prendre, notre distrait ne manqua pas de prendre la médecine pour l'hypocras. Là, dit-il, tout va bien maintenant, et quoique ton hypocras fût médiocre, j'espère qu'il me conduira jusqu'au dîner. Tu ne déjeunes donc pas ? Répond l'ami. Non, je vais à la messe et je t'omunis. Comment tu communies et tu prends de l'hypocras avant de communier ? C'est ma foi vlée, dit Racan, et j'allais faire un sacrilège sans y songer. J'irai à la messe, mais je ne t'omuniliai pas. » Et en effet, Racan alla à la messe. Mais au credo, il se sentit un si grand désordre dans le ventre qu'il n'eut que le temps de s'enfuir, et encore n'arriva-t-il point chez lui sans accident. Quant à l'ami malade qui avait pris l'hypocras au lieu du purgatif, il ne sentait que de la chaleur et n'allait point assez, tandis que Racan allait trop. Lorsque Racan faisait la cour à la femme, que plus tard il épousa, il résolut un jour d'aller lui faire une visite à la campagne et pour cette solennité commanda à son tailleur un habit de taffetas vercelladon, c'était la couleur à la mode, et le nom lui venait du héros de l'Astrée. L'habit fut apporté. Racan le trouva fort à son gré et le voulut mettre. Mais il avait un valet qui prenait plus soin de lui que lui-même et qu'on appelait Nicolas. Nicolas s'opposa à cette prodigalité. « Et s'il pleut, lui dit-il, où sera votre habit de taffetas vercelladon ?»« C'est vrai, dit Racan. Ah ! Mais que faire ? Bon, la chose est bien difficile, n'est-ce pas ? Je la trouve telle puisque je te demande conseil, Nicolas. Eh bien, prenez votre habit de bure et, à 100 pas du château, vous changerez d'habit au pied d'un arbre. » « Soit, Nicolas, je ferai ce que tu voudras, mon enfant, » répondit Racan. Et il partit avec son habit de bure, tandis que Nicolas portait l'habit vercelladon, précieusement enveloppé dans une serviette. À 100 pas de la maison de sa maîtresse, Racan trouve un petit bois qui semblait planté là tout exprès pour faire ce qu'il avait à faire, descend de cheval et commence son opération. Comme il relevait ses chausses, apparaît tout à coup l'objet de son amour, accompagné de deux amis. Toutes trois poussent un grand cri. « Ah, Nicolas, » dit Racan, « je te l'avais bien dit. Sais-tu que j'ai l'air de faire tout autre chose que de changer d'habit ?»« Eh, monsieur, » répondit Nicolas, « il n'y a point de mal, seulement dépêchez-vous. » La jeune fille voulait s'en aller, mais les autres, par malice, la poussaient vers Racan. Alors Racan tout penaud, « Mademoiselle, c'est Nicolas qui l'a voulu. Moi, je ne voulais pas. » Et se retournant vers son valet, « Mais parle donc lui pour moi, Nicolas, car je ne sais plus que dire. » Une fois, un de ses voisins, c'était quelque chose après son mariage avec la jeune fille qu'il avait si intempestivement suivie, une fois, un de ses voisins, chez lequel il était allé dîner, lui fit cadeau d'un magnifique bois de serre. Au moment de partir, Racan dit à Nicolas de le prendre avec lui. L'autre regimbait. « Mais qu'as-tu donc à gêner ainsi, Nicolas ?» lui demanda Racan. « Eh, monsieur, » répondit celui-ci, « j'essaie à mettre de toutes les façons la chose que vous m'avez donnée. »« Eh bien ?»« Eh bien, on voit que vous ne savez pas encore toute la peine que l'on a à porter des cornes, sans quoi vous ne me tourmenteriez comme vous le faites. » Ayant été reçu à l'académie, il dut faire son discours de réception. Comme sa réputation était grande, on attendait ce discours avec impatience. Il y avait foule. Racan entra, monta à la tribune et montrant un morceau de papier tout déchiré. « Messieurs, dit-il, j'avais fait un discours que je trouvais très beau. Mais ma grande levelette l'a tout matonné. Le voilà. Tirez-en ce que vous voulez, car je ne le sais point par cœur. Et je n'en ai point de toupie. » Il était tuteur du petit comte de Narran, qui était comme lui de la maison de Rueil. Il força le mari de la mère du jeune homme à rendre ses comptes, ce qui blessa celui-ci au point qu'il appela en duel. Mais Racan, secouant la tête, « Je suis folle vieux, dit-il, et j'ai tout le talent. »« Votre adversaire se battra à cheval, » lui répondit-on. « J'ai des ulcères aux jambes quand je mets des bottes. » « Puis j'ai 20 000 livres de lente à perdre. Comme mon adversaire dépose un capital de talte 100 000 livres, nous vêlons à plaie. Mais il dit qu'il vous attaquera partout où il vous rencontrera. »« Oh, c'est autre chose. Je ferai porter une épée par un l'allée, et s'il m'attaque, je me défendrai. Nous avons un plossé et non une telelle. » Le pauvre Racan avait un grand chagrin. Son fils aîné était un sot, tandis qu'il espérait avoir toutes sortes de contentement du second, qui était page de la reine et fort bien avec Monsieur d'Anjou. Par malheur, ce dernier enfant mourut. Il s'était adonné à porter la robe de mademoiselle, fille de Gaston, que l'on appela depuis la grande mademoiselle. Les pages de celle-ci en grondèrent. Mais mademoiselle déclara qu'elle voulait que l'on se tût et que toutes les fois qu'un page de la reine voudrait bien lui faire l'honneur de lui porter sa robe, elle lui en serait fort obligée. L'enfant continua donc de rendre à mademoiselle ce service volontaire. Les autres pages enrageaient et le firent appeler en duel par le plus jeune d'entre eux. On les laissa aller sur le terrain. Puis, sur le terrain, on les arrêta et on leur donna le fouet à tous deux. Quelque temps après, le jeune Racan fut délégué à la reine pour obtenir qu'on donnât aux pages deux petites oies au lieu d'une, car l'argentier leur en retranchait une des deux qu'il devait avoir. On sait que la petite oie était un nœud de ruban destiné à garnir l'habit, le chapeau et l'épée. La reine consentit à la demande. « Oui, dit-elle, mais étant le fils de M. Racan, c'est bien le moins que vous me présentiez votre requête en vers. » Le lendemain, l'enfant présenta à la reine ce madrigal que l'on prétendit être du père. « Reine, si les destins, mes vœux et bon bonheur vous donnent les premiers des ans de ma jeunesse, vous dois-je pas offrir cette première fleur que ma muse accueillit aux rives du Permès ? Si mon père en naissant m'avait pu faire don de l'esprit poétique ainsi que de son nom, qu'il a rendu vainqueur du temps et de l'envie, je pourrai dans mes vers donner l'éternité à votre majesté qui me donne la vie. » Dans son dernier séjour à Paris, c'est-à-dire en 1651, Racan ne pouvait plus se passer de l'Académie, disant qu'il n'avait d'amis que messieurs les académiciens. Et comme il avait un procès, il prit pour procureur Louis Favrard, mari de Catherine Chapelain, sœur du poète, parce qu'il lui semblait que cet homme, étant beau-frère de Chapelain, était beau-frère de l'Académie. Voilà donc les contes que racontait Boisrobert au cardinal et qui faisaient tant rire celui-ci. Il y en avait un surtout que nous avons gardé pour le dernier, attendu que c'était celui qui avait le privilège infaillible de dérider le front de son éminence. Quoique poète elle-même, Mademoiselle de Gournay, la bonne vieille fille dont, après Talmant des Réaux, nous avons raconté l'histoire, quoique poète elle-même, Mademoiselle de Gournay n'en avait pas moins conservé une haute admiration pour tous les grands poètes de l'époque, excepté pour Malherbe, qui s'était permis de critiquer son livre de l'ombre. Aussi, quand la seconde édition de ce livre parut, elle l'envoya au plus grand génie du XVIIe siècle. Il va sans dire que Racan eut son exemplaire. Lorsque Racan reçut ce fraternel et gracieux envoi, il avait près de lui ses inséparables, le chevalier de Rueil et Yvrande. Or, Racan, flatté de l'honneur, dit devant ses deux amis que le lendemain, il irait en personne remercier de cette attention Mademoiselle de Gournay. Cette déclaration ne tombait pas dans l'oreille de ces sourds dont parle Horace et pour lesquels nous chantons. Yvrande et le chevalier de Rueil résolurent de jouer un tour à Racan. C'était à 2 heures que Racan devait se présenter chez Mademoiselle de Gournay. Les deux amis s'en étaient assurés. À midi, le chevalier de Rueil se présente et heurte à la porte de la bonne vieille. Jamin va ouvrir et voit un beau cavalier. De Rueil, sans vouloir dire qui il est, expose le désir de voir la maîtresse du logis. Jamin entre aussitôt dans le cabinet de Mademoiselle de Gournay. Celle-ci, la plume en l'air, les yeux au ciel et dans l'attitude de l'inspiration, faisait des vers. Jamin lui annonce que quelqu'un demande à lui parler. Mademoiselle de Gournay, dont l'esprit est dans les nuages, lui fait répéter sa phrase. Jamin répète. « Et quel est ce quelqu'un ?» demande Mademoiselle de Gournay. « Il ne veut pas dire son nom. Et quelle tournure a-t-il ? » « C'est un beau cavalier de 30 à 35 ans, répond Jamin, et qui m'a tout l'air de sortir de bon lieu. » « Faites entrer, répond Mademoiselle de Gournay. La pensée que je cherchais et que j'allais sans doute trouver était belle, mais elle pourra revenir, tandis que ce cavalier ne reviendrait peut-être pas. « Entrez, monsieur, dit Jamin au chevalier de Rueil, qui, peu à peu, s'était approché de la porte du cabinet de la vieille fille. » Le chevalier de Rueil entra. « Monsieur, dit la vieille fille, je vous ai fait entrer sans vous demander qui vous étiez sur le rapport que Jamin m'a fait de votre bonne mine. Maintenant que vous voilà, j'espère que vous voudrez bien me faire l'honneur de m'apprendre votre nom. » « Mademoiselle, dit de Rueil, je me nomme Racan et je viens vous remercier du livre que vous avez eu la bonté de m'envoyer hier. » Sur cette annonce, Mademoiselle de Gournay, qui ne connaissait encore que de nom l'auteur des bergeries, jeta un grand cri de joie et ordonna à Jamin de faire taire Mamie Piaillon, qui miaulait dans la chambre voisine et qui, si elle continuait de miauler, l'empêcherait d'entendre les jolies choses qu'allait lui dire Monsieur de Racan. Le chevalier de Rueil, qui était homme d'esprit, fit force contes à Mademoiselle de Gournay, lesquelles amusèrent tellement la bonne vieille fille que, lorsqu'il se leva pour s'en aller, elle fit tous ses efforts afin de le retenir. Mais les instants du chevalier étaient comptés. Il ne pouvait rester que 3 quarts d'heure. À 1h15, il se leva donc définitivement et sortit, emportant force compliments sur sa courtoisie et laissant la bonne fille enthousiaste de lui. C'était une heureuse disposition pour retrouver la pensée au milieu de laquelle elle avait été interrompue et qui avait fui, effarouchée par l'entrée du faux Racan. Elle reprit donc la plume et venait de se remettre à la poursuite de cette pensée lorsqu'on sonna une seconde fois. Jamin alla ouvrir, mais Yvrande, car c'était Yvrande qui venait à son tour, Yvrande ne lui donna pas le temps de l'annoncer. Instruit par De Rueil des localités, il avait ouvert la porte du cabinet avant que Jamin eût refermé celle de l'appartement. « J'entre bien librement, dit-il, mais mademoiselle de Gournay, l'illustre auteur de l'ombre, ne doit pas être traitée comme le commun. »
« Ce compliment me plaît, » dit mademoiselle de Gournay, toute joyeuse. « Jamin, Jamin, mes tablettes, que je le marque !»«
Je viens vous remercier, mademoiselle, » continua Ivrande.
« Et de quoi, monsieur ?»«
De ce que vous avez bien voulu m'envoyer votre livre. »«
Moi, monsieur, je ne vous l'ai pas envoyé, mais je devrais l'avoir fait. Jamin, une ombre pour ce gentilhomme. »«
J'en ai une, mademoiselle. »
« Vous en avez une ?»«
Oui, et comme preuve, je vous dirai qu'il y a ceci en tel chapitre et cela en un autre. » Et voilà Ivrande qui se met à réciter la moitié du livre. La vieille fille n'en revenait pas que son livre eut un pareil succès. « En échange, lui dit Ivrande, je vous apporte quelques vers de ma façon. » Et il se mit, en effet, à débiter des vers de lui.
« Ah, voilà de gentils vers, n'est-ce pas, Jamin ?» disait la vieille fille.
Puis, s'interrompant,
« Jamin peut en être, monsieur. Elle est fille d'Amadis Jamin, page de Ronsard. Mais ne saurais-je pas votre nom, monsieur ?»«
Mademoiselle, dit Ivrande, je m'appelle Racan. »
« Monsieur, vous vous moquez de moi. »
« Me moquer de vous ? Me moquer de mademoiselle de Gournay ? De la fille d'Alliance du Grand Montaigne ?»«
Alors, dit-elle, celui qui vient de sortir a donc voulu se moquer de moi ? Ou peut-être est-ce vous qui vous en moquez ? Mais n'importe, la jeunesse peut rire de la vieillesse. En tout cas, je suis toujours bien aise d'avoir vu deux jeunes gens si bien faits et si spirituels. »
Et là-dessus, Ivrande et mademoiselle de Gournay se séparèrent avec force compliments. Le congé n'était pas pris depuis 5 minutes que l'on sonne une troisième fois à la porte et que Jamin, ayant été ouvrir, voilà le vrai Racan qui entre, tout essoufflé, étant un peu asthmatique.
« Ah, pas ma foi, mademoiselle, dit-il, excusez-les si, sans cérémonie, je plante un siège. »
« Oh, la ridicule figure ! Jamin, regarde donc !» dit mademoiselle de Gournay.
« Mademoiselle, dit Racan, dans un quart d'heure, je vous dirai pourquoi je suis venu ici. Mais, au palavant, laissez-moi souffler. Où diable êtes-vous venu loger si haut ? Ah, qu'il y a haut ! Qu'il y a haut, mademoiselle !»
On comprend que, si la tournure et la figure de Racan avaient réjoui mademoiselle de Gournay, elle fut bien autrement réjouie quand elle entendit son baragouin. Mais enfin, on se lasse de tout, même de rire. Au bout de quelques instants,
« Monsieur, dit-elle, quand vous vous serez reposé un quart d'heure, me direz-vous au moins ce qui vous amène chez moi ?»«
Mademoiselle, dit Racan, je viens chez vous pour vous remercier de m'avoir envoyé votre ombre. » Mais mademoiselle de Gournay, regardant le nouveau venu d'un air dédaigneux,
« Jamin, dit-elle, dites donc que je n'ai envoyé mon livre qu'à monsieur de Malherbe et à monsieur Racan. »« Eh bien, c'est là, mademoiselle, c'est moi qui suis Latent. »« Comment, c'est vous qui êtes Latent ? Qu'est-ce que cela, Latent ? » ?»« Oui, Latent, Latent, le poète. » »« Je ne connais pas de poète de ce nom-là, monsieur. » »« Comment, vous ne connaissez pas Latent, qui a fait les belles élis ?» « Monsieur, savez-vous écrire ?» demanda mademoiselle de Gournay. « Si je sais, est-il ? » s'écria Racan, tout blessé d'une pareille question. « Eh bien, en ce cas, monsieur, prenez ma plume, car à la façon dont vous bégayez, il est impossible de vous comprendre. Jamin, donnez une plume à monsieur. »
Jamin donna une plume au malencontreux visiteur, qui, de son écriture la plus lisible et en grosse moyenne, écrivit le nom de Racan.
« Racan ?» s'écria Jamin, qui suivait les lettres à mesure qu'elles paraissaient sous la main de celui qui les écrivait. « Racan ?» répéta mademoiselle de Gournay.
« Mais oui !» répéta Racan, enchanté d'être compris et croyant que l'accueil allait changer.
« Mais oui !»
Mais mademoiselle de Gournay, le regardant avec dédain,
« Oh, voyez, Jamin, le joli personnage » dit-elle. « Pour prendre un pareil nom ?» Au moins les deux autres étaient-ils plaisants, mais celui-là, c'est un bouffon.
Comment, les deux autres ? Fit Racan.
Oui, apprenez que vous êtes le troisième d'aujourd'hui qui se présente chez moi sous le nom de Racan.
Je ne sais pas si je suis le troisième latent, mademoiselle, mais en tout cas, c'est moi qui suis le vrai latent.
Je ne sais pas si vous êtes le faux ou le vrai, répondit mademoiselle de Gournay, mais ce que je sais, c'est que vous êtes le plus sot des trois. Mire Dieu, je n'entends pas qu'on me raille.
Mire Dieu était un mot que mademoiselle de Gournay avait composé pour son usage quand elle était en colère. Mire Dieu remplaçait mort Dieu, et avec mire Dieu, elle ne péchait pas. Et mademoiselle de Gournay accompagna ce mot d'un geste impératif qui voulait dire « Sortez d'ici !» Racan, désespéré et ne sachant plus que faire, aperçut un recueil de vers qu'il reconnut pour ses bergeries, se précipita dessus et le présentant à mademoiselle de Gournay,
« Mademoiselle, dit-il, je suis si bien le vlet latent que si vous voulez prendre ce livre, je vous dirai d'un bout à l'autre tous les vers qui s'y trouvent. »
« Alors, dit mademoiselle de Gournay, c'est que vous les avez volés comme vous avez volé le nom de Racan, et je vous déclare que si vous ne sortez pas d'ici à l'instant même, j'appelle au secours. »
« Mais, mademoiselle !»«
Jamin, criez au voleur, je vous en prie !»
Jamin se mit à crier au voleur de toutes ses forces.
Racan n'attendit pas la suite de cette déclaration de guerre, et tout asthmatique qu'il était, il se pendit à la corde de l'escalier et descendit rapide comme une flèche. Le jour même, mademoiselle de Gournay apprit toute l'histoire. On juge de son désespoir quand elle sut qu'elle avait mis à la porte le seul des trois Racan qui fut le vrai. Elle emprunta un carrosse et courut, dès le lendemain, chez M. de Bellegarde, où, comme nous l'avons dit, logeait Racan. La pauvre mademoiselle de Gournay avait tellement hâte de faire ses excuses à un homme pour lequel elle professait une si haute estime que, malgré l'opposition du valet de chambre, elle entra tout courant dans l'appartement. Racan, se trouvant en face de la vieille fille, crut qu'elle continuait de le poursuivre et, se levant aussitôt de son siège, il se sauva dans un cabinet voisin. Une fois là, et retranché à triple renfort de serrures et de verrous, il écouta. Au bout d'un instant, tout s'éclaircit. Racan apprit que c'était non plus des reproches, mais des excuses qu'on venait lui faire, et rassuré enfin sur les intentions de mademoiselle de Gournay, il consentit à sortir. À partir de ce jour, Racan et elle furent les meilleurs amis du monde. Mademoiselle Marie Lejard de Gournay mourut le 12 juillet 1645, à l'âge de 79 ans, et fut enterrée à Saint-Eustache.